Bonsoir, comment allez-vous ? Je suis comme vous, j'y pense, mais je n'en parle pas, ou pas beaucoup, ou pas avec tout le monde. Il y a des périodes où je n'y pense presque pas, et puis d'autres où je ne pense qu'à ça. Pendant les vacances, je n'y pense pas, je pratique, c'est ça qui est bon. Ça fait partie des bienfaits des vacances, surtout de celles d'été. En rentrant, fin août, je pratique encore pas mal sur la lancée. Et puis avec la rentrée, le stress, la course permanente, ce ne sont plus qu'instants délicieux mais fugaces. Le soir tard ou le matin très tôt, vite fait, souvent en restant debout. Quel dommage, à partir de septembre, même quand il fait chaud, de ne plus prendre le temps de bien installer la couverture, de s'y allonger tout seul ou à deux, ou même à trois, ou quatre ou plus. De garder les yeux bien ouverts pour ne rien perdre du spectacle. De ne rien dire ou murmurer. Et puis crier d'un coup quand on voit une étoile filante.
Bonjour, je m'appelle Louise. J'ai presque 6 ans et je voudrais savoir comment les météorites tombent du ciel et deviennent des étoiles filantes. Merci, au revoir.
Comment les météorites tombent du ciel et deviennent des étoiles filantes ? Dis donc, on dirait que tu en sais déjà pas mal, Jean Duprat. Est-ce que vous pouvez lui répondre et puis nous rappeler finalement ce que c'est que cette histoire de tomber du ciel, étoiles filantes, météorites, tout ça ?
Alors, en fait, il y a deux choses. Il y a les météorites qui tombent et puis il y a les étoiles filantes. En fait, c'est deux choses qui sont un tout petit peu différentes. Alors, commençons par la première. Comment ces météorites tombent du ciel ? D'où viennent-elles ? Elles viennent en fait de l'espace interplanétaire. Toutes viennent de notre système solaire. Ce sont des cailloux, ces météorites, qui, au départ, font partie des objets qui tournent autour du Soleil. Elles ne viennent pas de en dehors du système solaire. Donc, elles viennent du système solaire, mais d'où dans le système solaire ? C'est grand, le système solaire. En fait, l'écrasante majorité des météorites viennent du même endroit, de la ceinture d'astéroïdes, entre Mars et Jupiter. Alors, dans les collections de météorites dont nous disposons sur Terre, bizarrement, il y a peu d'objets dont on connaisse de façon certaine l'origine. Nous, on dit le corps parent, c'est-à-dire le corps auquel appartenait ce caillou avant.
D'accord.
Alors, on connaît en fait les objets qui viennent de la Lune, oui, grâce aux missions Apollo. Mmh. On est aussi capable de reconnaître des objets qui viennent de Mars, par preuve indirecte, oui, en fait, parce qu'il n'y a pas encore eu de retour d'échantillons martiens.
Oui.
On étudie la planète là-bas, mais on n'a pas ramené d'échantillons. On espère qu'un jour, il y en aura. Mais
enfin, c'est juste génial. L'instant... Il y a quand même sur Terre des petits bouts de Mars.
Oui, il y a des petits bouts de Mars. Mais à part ces deux objets-là, en fait, on ne peut pas connaître exactement ce qu'on appelle donc leur corps parent. Mais en étudiant les trajectoires lorsqu'ils rentrent, ah oui, dans l'atmosphère, on peut remonter à leur orbite, c'est-à-dire de savoir d'où ils viennent. Et donc, c'est là qu'on voit que la plupart des météorites donc, viennent d'un seul endroit dans le système solaire, la ceinture d'astéroïdes.
Qu'est-ce que c'est, Jean Duprat, la ceinture d'astéroïdes ?
Alors, la ceinture d'astéroïdes, c'est une zone entre Mars et Jupiter où il y a, en quelque sorte, d'énormes cailloux. Ce n'est pas des cailloux au sens où nous les entendons, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup plus petit que des planètes. Et c'est des objets, en fait, qui sont très intéressants pour nous parce qu'en fait, c'est des objets qui sont très anciens. Ils se sont formés tout au début du système solaire, avant que les planètes ne soient terminées. Maintenant, ils tournent autour du Soleil et parfois, ils s'entrechoquent et produisent des cailloux, donc beaucoup plus petits qu'eux. Et c'est ces cailloux-là qui ensuite dérivent vers l'intérieur du système solaire, vers l'étoile, et certains d'entre eux croisent l'orbite de la Terre et tombent sur Terre. Voilà ce que c'est qu'une météorite. Donc voilà pourquoi les météorites tombent sur Terre. Et donc ça nous amène à la seconde partie de la question de Louise. Comment les météorites deviennent des étoiles filantes ? Alors, distinguons d'abord les étoiles filantes classiques, celles que nous voyons souvent dans le ciel d'été. Elles ne durent que très peu de temps. Une seconde à peine, le temps à peine de les voir. Ces objets-là sont des objets de très petite taille, quelques millimètres, quelques centimètres tout au plus pour les traînées vraiment les plus longues. Et puis, il y a les vraies météorites dont je parlais avant, c'est-à-dire vraiment des objets qui peuvent faire des dizaines de centimètres, voire un peu plus. Et ça, quand elles rentrent dans la haute atmosphère, elles font un phénomène lumineux. Comme les petites poussières, elles perdent leur masse. Mais c'est beaucoup plus intense et persistant. Et ces gros objets sont beaucoup plus rares. C'est en fait, c'est véritablement une chance d'en voir une. C'est très très rare. Mais bon, il en tombe régulièrement sur Terre. Alors, à ce moment-là précis, si jamais nous sommes une belle nuit d'été, quelques dizaines de kilomètres en dessous, plus bas, il y a peut-être Louise qui regarde vers le ciel et qui d'un coup voit cette lumière. « Ah bah dis donc, je viens de voir une étoile filante ».
Donc c'est soit un tout petit grain, soit quand même un énorme caillou. Mais dans les deux cas, ça fonce, ça brûle un gaz,
oui.
Donc ça fait de lumière.
Voilà.
Mais
voilà.
Ce n'est en aucun cas une étoile.
Absolument pas une étoile.
Jean Duprat est physicien, il est directeur de recherche au CNRS. Il travaille au Centre de sciences nucléaires et de sciences de la matière à Orsay. Ses livres pour les jeunes ont été édités chez Albin Michel Jeunesse. Alors ce soir, nous saurons si on peut donner n'importe quel prénom à un enfant. Nous saurons comment marche le cerveau. Enfin, en gros, hein, la réponse va durer 3-4 minutes. Et enfin, nous saurons, si par malheur nous sommes en prison, comment on fait pour obtenir des livres. Mais pour l'heure, eh bien, nous allons filer avec Clive Lamming.
Bonjour, je m'appelle Mélanie, j'ai 18 ans. Et je voudrais savoir pourquoi on ne peut pas ouvrir les fenêtres des TGV.
Mélanie, que je te suis reconnaissante d'avoir posé cette question. Moi qui suis autant claustrophobe que amoureuse des trains, ça nous met dans l'embarras. Clive Lamming, vous êtes historien du chemin de fer. Pouvez-vous répondre à Mélanie ?
Bien entendu, je peux répondre à Mélanie, sinon je ne serais pas là. J'aurais honte et je me cacherais. La réponse est très simple. Les TGV roulent, mettons, à 300 à l'heure. Quand un TGV croise un autre TGV, ça fait du 600. En vitesse comparée. On est d'accord, les deux vitesses s'ajoutent.
Oui,
et quand on est dans un tunnel, eh bien, si on pouvait ouvrir la fenêtre, ben vous seriez projeté de votre siège par le choc, je dirais, jusqu'au milieu de la voiture, sinon ailleurs. D'ailleurs, savez-vous que les vitesses des TGV sont telles qu'on peut pas avoir de WC, par exemple, qui donne directement à l'extérieur, on serait plaqué sur le siège par la dépression créée par les 300 km/h. Autrement dit, le TGV est comme un avion, il faut que ce soit fermé à cause de la pression de l'air et de la vitesse.
D'accord.
Seulement les avions, eux, ne se croisent pas à quelques centimètres comme les TGV.
Oui.
Alors que le TGV, il croise son copain à 15-20 centimètres, ça fait un choc épouvantable. Je peux vous dire que lors des premiers TGV, les premiers essais, les vitres volaient en éclats.
Ah oui ?
Il a fallu trouver un système de verre à la fois très fort, très rigide, en même temps très souple, pour pouvoir absorber le choc.
Donc, pas d'ouverture dans les
pas
TGV, ni dans
folie.
Les fenêtres.
Ce serait une folie. Ça doit être fermé comme un œuf. Et le problème avec les prochains TGV qui vont rouler à 400, 500 km/h, c'est pour dans une dizaine d'années, il va falloir faire des structures qui soient vraiment comme des avions. Les TGV actuels, c'est un châssis avec une carrosserie un peu comme une automobile, mais c'est pas assez solide pour aller à des aussi grandes vitesses. Il va falloir faire des véritables cellules d'avion. Il faut tout reconsidérer le TGV.
Bon, c'est bon de savoir ça. Si les fenêtres ne sont pas ouvrables, c'est pour des raisons de sécurité et pas pour nous embêter. Quand on est claustro, on est aussi un petit peu parano. Les livres de Clive Lamming sont magnifiques et intéressants. Vous trouverez leurs références sur le site des Petits Bateaux.
Il avait trouvé sa place, assis au chaud tout au fond de la classe, assoupi derrière son livre, lui qui se voyait vivre une autre histoire. Il faisait le minimum pendant qu'on se cherchait un uniforme, les mêmes chaussures et le même blouson comme les grandes gueules de la pension. Mais si on pleurait à la maison dès qu'un professeur haussait le ton, lui se foutait de l'autorité de leurs conseils avisés. Quand il lui disait:
si tu veux réussir, contrôle ta samba, il faut te ressaisir. Contrôle ta samba, oui tu dois réagir. Contrôle ta samba.
Mais la samba, ça ne se contrôle pas. Deux années au pensionnat, à gribouiller dans son agenda, j'étais pas assez intelligent pour le trouver intéressant. Puis le bac et les bancs de la fac, pour un boulot pourri à la Fnac, un petit chef qui pensait changer le monde, a donné des ordres à la ronde. Et qui lui disait:
si tu veux t'enrichir, contrôle ta samba, il faut te ressaisir. Contrôle ta samba, ou bien sinon je te vire. Contrôle ta samba.
Mais la samba, ça ne se contrôle pas. Aujourd'hui dans ces photos, à 2000 bornes du premier métro, je vois un mec qui vit sa vie comme il en a envie et ça me fait rêver. Lui qui regardait les avions passer, quand j'avais peur de me faire engueuler, avait déjà son projet en tête en regardant par la fenêtre. Il se disait, j'ai d'autres désirs,
contrôle ta samba,
que celui d'obéir,
contrôle ta samba.
Un jour je vais partir,
contrôle ta samba,
car la samba, ça ne se contrôle pas.
Contrôle ta samba, 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 contrôle ta samba,
contrôle ta samba. C'était Séverin et Catherine.
Les petits bateaux sur France Inter.
Nous connaissons bien Marie-Odile Merniak au petit bateau, elle est généalogiste. Ses livres sont édités chez Archives et Culture.
Bonjour les petits bateaux, je m'appelle Chloé. Je vais avoir 10 ans très bientôt et j'aimerais savoir si en France ou autre part dans le monde, on peut inventer un prénom et le donner à quelqu'un. Merci beaucoup, au revoir.
Inventer un prénom et le donner à quelqu'un, Chloé. Je sais que dans ma génération, il y a souvent on entend « je devais m'appeler comme ça » et puis mes parents n'ont pas eu le droit, alors du coup je me suis appelée Françoise. Marie-Odile Merniak, est-ce que maintenant on peut, demande Chloé, inventer un prénom ?
Oui, on peut, Chloé, on peut donner n'importe quel prénom en France depuis 1993. La loi a changé à ce moment-là. Donc les parents peuvent choisir ce qu'ils veulent. Donc aussi bien un prénom qui existe, bien sûr, qu'un prénom qui vient d'ailleurs, qu'un prénom totalement inventé, ou prendre un mot qui existe.
Totalement inventé. On n'est pas obligé de donner à l'état civil une espèce de preuve que ce prénom a déjà vécu.
Non, en 1987, effectivement, on pouvait déjà donner des nouveaux prénoms, mais à condition de prouver qu'ils avaient existé, soit quelque part dans le monde, soit dans le passé.
D'accord.
Mais depuis 1993, non. Si vous aimez Babubi Bobu, vous pouvez le donner à votre enfant. Ouais. On choisit ce que l'on veut, y compris des sonorités qui ne formaient pas de prénom avant.
Mais je ne peux pas appeler mon enfant Salaud.
Ah non. La justice, effectivement, intervient si elle considère que le choix des parents va nuire à l'enfant lorsqu'il va grandir. Donc ni Salaud, ni Cornichon, etc. Impossible de donner ces prénoms-là. Alors, on a, depuis 93, beaucoup d'anecdotes. Des parents avaient essayé, par exemple, d'appeler leurs jumeaux périphérique nord, périphérique sud. Ça a été refusé.
Mmh, faut comprendre.
Oui. Mais en revanche, l'État a laissé passer Bulle pour une fille. Après tout, il existe bien une actrice
Bulogier
qui s'appelle Bulogier. Et ils ont laissé passer récemment Kiwi pour un garçon.
Je trouve ça assez joli, moi.
C'est
Kiwi.
Mignon aussi. Kiwi, en considérant qu'il y avait là aussi des petites filles qu'on appelait prunes ou cerises. Donc, pourquoi pas. Et l'État a aussi accepté Galipette pour une petite fille parce que c'était en second prénom. Ils ont quand même signalé qu'ils ne l'auraient pas laissé passer en premier prénom.
À l'école, ça peut être dur à porter.
Oui. Donc, mais là, en deuxième, pour l'état civil, on le voit, mais à l'école, personne ne s'en rend compte.
C'est vrai que la sonorité de Galipette est très jolie.
Oui, pirouette, cacahuète, on peut en essayer beaucoup.
Et oui, parfois on donne un prénom parce qu'il est mignon et on ne réalise pas bien sa signification. Par exemple, notre réalisatrice Flora Bernard, tu n'étais pas là Flora, quand Marie-Odile Merniak est venue, mais elle nous a dit que Bernard, ça voulait dire ours fort. Il n'est pas ours, mais il est fort, Francis Eustache, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, responsable d'une unité de recherche à l'INSERM.
Bonjour, je m'appelle Juliette, j'ai 9 ans et je voudrais savoir comment fonctionne le cerveau.
Bonjour, je m'appelle Adrien et je voudrais savoir à quoi sert le cerveau. Merci de répondre à ma question.
Comment fonctionne le cerveau ? Le cerveau, c'est un organe, comme on a d'autres organes qui forment notre corps. C'est un organe très compliqué, parce que il est composé d'une multitude de cellules, un très très grand nombre de cellules, dont les plus importantes sont les neurones. Les neurones sont les cellules du cerveau, et ces cellules communiquent entre elles avec des signaux biochimiques, et donc utilisent ce qu'on appelle des neurotransmetteurs pour communiquer entre elles. Alors, ça, c'est le premier niveau de compréhension du cerveau, c'est toutes ces cellules qui communiquent. Et puis ensuite, ces cellules, elles sont organisées en grands systèmes. Et la mémoire, qui nous intéresse en premier chef aujourd'hui, eh bien, la mémoire utilise certains de ces réseaux qui vont fonctionner, alors qui sont donc localisés dans certaines régions de façon préférentielle. Par exemple, pour la mémoire, il y a une région qui est très importante qui s'appelle l'hippocampe, qui est située à la face interne des lobes temporaux, c'est-à-dire sur les côtés du cerveau, mais qui communique aussi avec d'autres régions du cerveau, ce qu'on appelle le néocortex. Alors le cortex, c'est en fait le manteau qui entoure le cerveau. Le cortex, ça vient d'écorce. Et donc, il y a des réseaux comme ça qui permettent de former des souvenirs, de former des connaissances. Mais ce cerveau, il ne sert pas qu'à la mémoire, il sert à toutes sortes de fonctions, des fonctions relativement élémentaires, comme marcher ou voir, ou... et puis des fonctions de très très haut niveau, bien qui nous permettent d'apprendre, qui nous permettent de communiquer avec les autres, de former notre personnalité, notre identité au fil du temps. En fait, le cerveau, c'est vraiment nous-mêmes.
Merci Francis Eustache. Vos livres sont édités chez Le Pommier, surtout ceux pour les enfants. Bien entendu, on ne peut pas expliquer tout le fonctionnement du cerveau en 2 minutes. Mais pour nous, profanes, vous venez de nous donner un éclairage précieux.
Helping the kids out of their coats, the way the babies haven't been born. Unpacking the bags and setting up and planting lilacs and buttercups. Oh, 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 but in the meantime I got it hard, second floor living without a yard. It may be years until the day my dreams will match up with my pay.
Chaboum, c'était Faced.
Vous connaissez le principe des petits bateaux sur France Inter, des enfants, petits, moyens et grands, téléphonent pour poser une question et nous, nous trouvons un spécialiste ou une pour répondre.
Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste et j'aimerais savoir comment fait-on pour avoir des livres en prison et est-ce qu'on peut avoir tous les livres? Merci, au revoir.
Merci Jean-Baptiste. Les livres en prison et a-t-on le droit d'avoir tous les livres, demande-t-il. Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Merci Jean-Baptiste de cette question intéressante qui peut intéresser les grands lecteurs mais aussi ceux qui le sont moins. Alors, en prison, il n'y a pas beaucoup de grands lecteurs, il faut bien reconnaître, parce que ceux qu'on met en prison, le plus souvent, appartiennent aux catégories très modestes de la société et ne sont pas ceux qui lisent le plus. C'est triste, mais c'est ça. Alors, il y a quand même de gros lecteurs qui arrivent en prison. Alors, que font-ils? Ils ont deux possibilités. La première possibilité, c'est qu'il y a dans la plupart des établissements pénitentiaires, aujourd'hui, une bibliothèque dans laquelle on peut, comme une espèce de bibliothèque publique, au fond, venir emprunter des livres. Ceux qui ont le plus de succès, il faut bien le dire, ce sont des livres ou bien très pratiques, ou bien des bandes dessinées. Mais on a aussi, un peu plus que cela, il y a des bibliothèques qui sont bien fournies, il y en a qui le sont moins, moi j'ai vu des choses très inégales en prison, il y a des bibliothèques de prison qui sont aidées par la bibliothèque municipale, par exemple, ça me paraît très bien, et qui, laquelle bibliothèque renouvelle le fonds, comme on l'appelle, c'est-à-dire les livres qui sont entreposés en prison, et puis il y a d'autres prisons où il n'y a aucune aide municipale, et par conséquent on est sur des fonds un peu appauvris, il faut bien le dire. Donc, il y a des bibliothèques où les détenus peuvent s'inscrire, mais encore faut-il qu'on les laisse sortir de cellule pour aller à la bibliothèque.
Ah oui.
On n'y va pas quand on veut à la bibliothèque. Il faut disposer d'un créneau horaire pour ça, et il faut disposer de l'autorisation du surveillant. En principe, elle est donnée, mais si on veut ennuyer un peu le détenu, on ne lui permettra pas d'aller en bibliothèque. Voilà. Donc ça, c'est le premier moyen. Il y a un deuxième moyen, c'est quand on a encore une famille à l'extérieur, c'est de lui écrire et lui demander « si tu viens un jour me voir dans ce qu'on appelle les parloirs, ce qui sert de salle d'entretien entre un détenu et sa famille qui vient le voir, tu m'apporteras un livre ». Mais pour apporter un livre de l'extérieur, alors il faut avoir l'autorisation du directeur.
C'est compliqué.
Et donc, c'est nettement plus compliqué. Et alors, la question que pose aussi Jean-Baptiste, c'est de savoir si tous les livres sont autorisés à lire en prison. Est-ce qu'on peut lire ça dans prison?
Oui.
Alors, non, tous les livres ne sont pas autorisés. Et il y a une sorte de censure qui s'exerce à la fois sur le contenu du fond de la bibliothèque de la prison et même surtout sur les livres que éventuellement on voudrait faire venir de l'extérieur. J'ai deux exemples, moi, de censure de ce type que j'ai trouvé comme contrôleur général des lieux de privation de liberté tout à fait abusif, je le dis tout net. Le premier, c'est un détenu qui a demandé un jour à avoir un livre juridique qui est écrit par une professeure de droit que je connais bien et qui est une très bonne intelligence et qui s'appelle « Le droit pénitentiaire ». C'est un livre publié chez un éditeur de droit et consacré au droit pénitentiaire. Ce détenu n'a pas eu le droit de faire entrer un livre de droit en prison. C'est fondé sur rien. C'est même indécent de savoir qu'un détenu n'a pas le droit de se renseigner sur ses droits. Le deuxième exemple, c'est un détenu qui me l'a fait connaître aussi. Il avait voulu acheter un certain nombre de romans policiers, pas pour lui, mais pour la bibliothèque de l'établissement, parce qu'il était bibliothécaire. Et on lui a refusé l'entrée d'un certain nombre de romans policiers, parce que l'un d'entre eux mettait en scène en particulier une évasion. Donc on a jugé que ça pourrait donner des idées, ce qui était absurde en réalité, puisque les évasions, il n'y en a pratiquement pas en France, et qu'une évasion, ça se prépare toujours à partir du lieu où on est, et pas d'un roman policier. Personnellement, je ne crois pas qu'une évasion s'inspire de choses, sinon il faudrait interdire aussi Monte Cristo et quelques romans célèbres de cette nature. Bon, donc on ne peut pas lire tout ce qu'on veut en détention.
Merci Jean-Marie Delarue. C'est terminé pour ce soir, mais vous pouvez bien entendu venir sur le site des Petits Bateaux ou bien podcaster cette émission et l'écouter quand bon vous semble ou bien la retrouver sur le livre de poche Les Petits Bateaux. Merci à Jean-Baptiste Audibert, à Pauline Laverdure, à Flora Bernard et à Marjorie Devoucoux. Pour le moment, je vous laisse avec Denis Chessou pour la Tulu, mon petit loup.